19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver. On démarre une toute nouvelle semaine. Quel plaisir de vous retrouver. Je suis là pour vous réchauffer un peu les cœurs. Parce que qu'est-ce qui caille ? Je parle pas aux auditeurs du Sud. Hein. Vous avez bien de la chance, les amis. Hein. Les amis du Sud, profitez-en bien. Réchauffez-nous. Parfois, vous nous faites monter un peu de chaleur chaude. Ça nous fera du bien. Allez, au menu, au programme de cette émission des Informés. Jusqu'à 20h, ce soir, on est ensemble pour démarrer une toute nouvelle semaine. Alors, au programme, d'abord un invité. Parce que cet invité, vous savez quoi ? Il a envie de parler de jeunesse. Il a envie de parler de doléances. Parce que oui, les jeunes veulent s'emparer de la parole, mais aussi veulent se parer tout simplement. Ils veulent avoir la part du gâteau, certainement. Cette part du gâteau. Et on tâchera de comprendre qu'est-ce qui anime notre jeunesse aujourd'hui. Avec un journaliste indépendant, mais aussi créateur de vidéos, qui sera avec nous dans une poignée de minutes, Mehdi Jaziri. Ensuite, après, 01 53 48 3000, j'ouvrirai l'antenne. Comme chaque soir, vous êtes nombreux, et bien vous allez être nombreux certainement ce soir encore. On commentera les sujets d'actualité. Ce soir, vous allez me dire ce que vous pensez du tollé après les propos de Éric Zemmour envers François Hollande. Ah, ça cogne dur. Et ensuite, tout à l'heure, le face-à-face avec deux débatteurs influenceurs qui viendront confronter leur point de vue sur trois sujets d'actualité. Zemmour et les déclarations autour de François Hollande. Ensuite, on parlera de Gérard Darmanin et évidemment de la demande de la fermeture du compte Instagram et Facebook des Dalton, mais également aussi de la COP26. Mon Dieu, la COP26. Yannick Jadot se plaint aujourd'hui, dit que c'est un échec. Et si c'était trop tard ? C'est vrai. Moi, je me pose la question, les amis. Et si c'était trop tard ? Moi, j'ai le sentiment, franchement, je vous le dis comme je le pense, c'est trop tard. On a abîmé notre planète et je pense que c'est trop tard. La seule chose qu'on peut rattraper, c'est peut-être gratter ici et là. Et bien, on en parlera tout à l'heure au 01 53 48 3000. C'est parti, l'invité du jour. Les Informés, c'est maintenant et plus que jamais, en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, Les Informés avec Adil Farkan.
L'invité actu.
Les Informés, l'interview.
Et c'est avec un journaliste, un confrère, créateur de vidéos sur Instagram et journaliste. Bonjour Mehdi Jaziri.
Comment ça va ?
Mais très bien. Ça va ? Tout va bien pour vous, Mehdi ?
Oh, ça va, tranquillement. Il fait un peu froid.
Ouais, il fait un peu froid, un peu beaucoup froid. Hein. Moi, je suis venu en bécane. Je peux vous dire que j'en ai pris plein ma gueule. Pardonnez-moi de la trivialité du terme. Non, mais c'est vrai. Je pense que je vais sortir les cols roulés. J'osais pas ce matin. Mais là, je suis arrivé, tu sais, comme si c'était l'été. Ma chemise, ma petite veste. J'ai rien compris encore. Je crois que j'ai pas voulu accepter, évidemment, le froid qui nous arrive. Mehdi Jaziri, on va parler d'un sujet qui nous intéresse. C'est celui de ce cahier de doléances, d'accord, concernant la jeunesse. D'ailleurs, pourquoi cahier des doléances de notre jeunesse ? Pour quelle raison ? Vous vouliez avoir, vous, votre mot à dire, Mehdi Jaziri ?
Alors, moi non, parce que je rappelle qu'un journaliste, du coup, doit être neutre en toutes quelles circonstances. Mm-hmm. Mais, en fait, oui, voilà, je suis parti du postulat que je me suis dit, là, d'un coup, on se rend compte qu'il n'y a plus tellement de jeunes qui s'intéressent à la politique, du moins, il y en a de moins en moins. Mm-hmm. Et en fait, qu'est-ce que je peux faire ? Donc en fait, je me suis rappelé de mes cours d'histoire, 1789, le cahier d'oléances qu'on donnait au roi. Mmh. Et puis, et puis ça a été refait, bien évidemment, par les Gilets jaunes notamment. Sauf que cette fois-ci, on a voulu faire la chose différemment. Mmh. Moi, je suis journaliste, je fais des vidéos sur Instagram, c'est des reportages du coup. Et je me suis dit, il faut que je le fasse comme un journaliste, c'est-à-dire en étant neutre. Mmh. Donc c'est-à-dire qu'on a des idées qui peuvent rapprocher plus, des idées de gauche.
Mais pourquoi vous l'avez appelé « Oh, Mehdi, cahier de doléances et de propositions » en parlant de notre jeunesse ?
En fait, « Oh, Mehdi », parce que c'est mon Instagram, tout simplement. Mmh. Et « cahier de doléances et de propositions », c'est parce que, voilà, les doléances, ça a un côté, on va dire, un peu dramatique. Et je voulais pas du tout être sur ce toit-là, donc j'ai rajouté des propositions.
Oui.
Parce que justement, j'ai envie qu'on soit dans cette démarche-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une démarche de dire, bon, les politiciens, vous avez fait n'importe quoi, on est là pour vous encadrer, pas du tout. On n'est pas du tout dans cette démarche-là. Au contraire, on se dit, voilà, je pense qu'on est justement dans un travail collectif, on est dans une démocratie.
Oui.
Donc on va inclure la jeunesse dans ce travail politique. Et
Alors qu'est-ce qu'il raconte ce cahier de doléances et de propositions ? Parce que quand on voit aujourd'hui, effectivement, notre jeunesse en plein désarroi, notre jeunesse qui est dépourvue, notre jeunesse qui vient de traverser la crise sanitaire du Covid-19, et qui continue d'ailleurs à le traverser, elle est complètement désemparée, notre jeunesse, Mehdi Jazeri.
Désemparée, je n'irai pas jusque-là. C'est-à-dire qu'on a encore des jeunes, fort heureusement, qui ont conscience justement de certains problèmes de société aujourd'hui.
Oui, mais ils n'ont pas de perspective. Ils n'ont pas de perspective, ils n'ont pas d'avenir, ils n'ont pas de visibilité.
On va dire que certains, oui, forcément. Il y en a beaucoup qui malheureusement n'ont pas vraiment de perspective aujourd'hui, qui se posent des questions, qui ne savent pas trop comment, pourquoi. Enfin, ils se posent beaucoup de questions, ils n'ont pas forcément les réponses à ces questions-là. Et je me suis dit justement, est-ce que ils n'ont pas les réponses parce qu'on veut pas leur donner, ou ils n'ont pas les réponses parce qu'ils veulent pas les chercher.
Ouais.
Moi, je pense que c'est du 50-50. Je pense que le devoir des politiciens, c'est de leur donner ces réponses, mais je pense que notre devoir à nous, parce que je mets nous parce que je suis jeune, hein, bien évidemment, c'est d'aller les chercher aussi.
Quand vous dites vous êtes jeune, vous avez quel âge, disons, à nos auditeurs, comme ça leur parlera. C'est un jeune qui parle aux jeunes, justement.
J'ai 19 ans.
Donc, c'est un jeune qui parle aux jeunes. Voilà, effectivement. Donc, vous êtes rempli d'ambition. Qu'est-ce que vous avez envie de provoquer dans votre cahier de doléances ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Qu'est-ce que vous racontez dans votre cahier de doléances, justement ?
Alors en fait, je vais vous dire, mon cahier de doléances, c'est très simple. C'est, dès qu'on ouvre la page, on a un sommaire avec 10 thèmes. Dans les thèmes, on a par exemple les droits des femmes, on a qu'est-ce qui pourrait pousser le président, qu'est-ce qui pourrait pousser les jeunes du moins à voter ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait vous pousser à voter ? C'est une vraie question qu'on a posée aux gens. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en matière d'écologie, d'éducation ? Enfin, il y a 10 thèmes, et sur ces 10 thèmes, justement, je pense que c'est des thèmes, voilà, qui sont beaucoup plus centrés aujourd'hui chez la jeunesse. C'est des thèmes soit que les jeunes, on va dire, abordent beaucoup dans leurs discussions, soit c'est des thèmes qui touchent directement la jeunesse.
Quelle est la principale préoccupation de notre jeunesse, Mehdi Jazeri ?
Je vais vous dire, ça dépend de plein de choses. C'est-à-dire que ça peut dépendre du milieu social de la personne, ça peut dépendre même de ses goûts, de peu importe. En fait, je pense qu'aujourd'hui, l'argent est au cœur, bien évidemment, de beaucoup de débats, mais on a aussi le droit des femmes. Aujourd'hui, les jeunes sont vraiment, mais c'est bien, hein, vraiment c'est bien, mais
oui.
La jeunesse aujourd'hui est à fond derrière le droit des femmes. C'est incroyable. L'écologie, pareil.
Ouais.
La sécurité peut-être un peu moins, mais j'ai été étonné de voir justement que beaucoup ont des idées bien tranchées sur le sujet. Quand je dis bien tranchées, c'est qu'on a des idées qui peuvent quelquefois s'approcher de celles de Monsieur Zemmour.
Ouais. Aujourd'hui, quand je vous dis pardon sur Zemmour, vous disiez quoi ?
Bah, il y a des idées aujourd'hui, forcément, sur les thèmes de la sécurité, par exemple, qui peuvent approcher celles de Zemmour.
Qu'est-ce que disent les jeunes ? Qu'est-ce qu'ils pensent, les jeunes, notre jeunesse ? Qu'est-ce qu'elle pense d'Éric Zemmour aujourd'hui et de son débat qui est en train de s'installer dans les esprits, et notamment de cette campagne qui prend une tournure, pour le moins qu'on puisse dire, effectivement, quand on parle d'insécurité, quand on parle d'islam, quand on parle de Français issus de l'immigration. Qu'est-ce qu'elle dit, notre jeunesse, concernant Éric Zemmour ?
Concernant Éric Zemmour, je veux dire, mon cahier de doléances, ça n'a pas été un sondage. Donc, il faudrait vraiment un sondage pour savoir si les gens sont d'accord ou non avec M. Zemmour.
Alors,
c'est pas la science du sondage. Mais, en revanche, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que, on voit bien aujourd'hui qu'il y en a, quand on leur parle de M. Zemmour, ils ont directement les préjugés, justement, du monsieur, entre guillemets, je mets bien de gros guillemets parce que ce n'est pas mes mots, du monsieur raciste. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de débats différents. Certains le trouvent comme un homme brillant, d'autres comme un raciste, d'autres comme... Il y a 50 000 choses qui sortent, et je pense que quelquefois, si c'est la fruit de désinformation, je pense qu'on va en parler tout à l'heure.
On va en parler justement, j'ai envie de vous poser cette question.
Ah.
Vous savez, qui est récurrente et qui revient en permanence. Quand je vous dis, si je vous pose la question, Mehdi Jazeri, que notre jeunesse, elle est en plein divorce avec la chose politique. Est-ce qu'il existe ce divorce entre notre jeunesse et les politiciens aujourd'hui ? Est-ce que ce divorce aujourd'hui, il existe ?
Est-ce que ce divorce existe ? Bien évidemment qu'il existe. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a qu'à regarder justement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est le lieu, où on, enfin, virtuellement parlant, où on voit le plus de jeunes. Et du coup, en fait, quand on regarde, parce que moi, je vais attaquer, je suis désolé, hein, je sais que vous avez des influenceurs qui vont venir, mais
allez-y.
Je suis obligé de parler de ça.
Allez-y, parce on est là pour parler franco, allez-y.
Des influenceurs, voilà, j'ai parlé très franc, on a des influenceurs qui sont ridicules, qui ne font pas leur travail. Moi, pour moi, les influenceurs aujourd'hui, je parle pas de tout, je vais pas tous les mettre dans le même sac, mais on en a, par exemple, ceux qui sortent de la télé-réalité, pour moi, je les trouve ridicules.
Ouais.
Ils éloignent justement la jeunesse de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand Marine Le Pen va faire une vidéo sur TikTok, t'as, allez, 5, 6, 7, ça peut aller même jusqu'à une cinquantaine d'influenceurs qui vont se permettre de faire des vidéos, mais juste pour blaguer Marine Le Pen sur sa manière de s'habiller, sur sa manière de parler. Et en fait, ils poussent pas la jeunesse à aller dans le fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des jeunes aujourd'hui qui ont des idées de blagues qui viennent en tête, ont des idées vraiment, mais tout écrit, hein, limite, ils les écrivent sur des cahiers. Par contre, allez leur demander de sortir une idée de Madame Le Pen. Ou alors même, on va prendre un candidat de gauche, parce que je parle beaucoup de la droite, mais allons parler de M. Mélenchon, par exemple. Les gens aujourd'hui, la seule phrase qui retiennent de M. Mélenchon, c'est « La République, c'est moi ». C'est tout. Excusez-moi, je trouve ça ridicule. Donc ça, c'est un premier point. Les influenceurs, je les trouve vraiment de A à Z, totalement ridicules. Et par exemple, prenons le cas de Mme Kinglo, qui...
Mais vous répondez pas à la question. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont un véritable divorce avec les politiques? Et pour quelle raison? Est-ce qu'on a une explication? Est-ce que ça les saoule? Est-ce qu'ils en ont marre? Est-ce qu'ils y croient plus? Enfin.
Mais parce que la politique, en fait, il faut définir déjà ce que c'est que la politique. On pense aujourd'hui que la politique, c'est une bande de vieux. Excusez-moi le terme, autour d'une table qui vont aller discuter des suggestions du moment.
Ouais.
Pas du tout. La politique, ça peut très bien être, par exemple, les allocations que les parents vont toucher. Ça touche tout le monde. Excusez-moi.
Ouais.
L'écologie, ça touche tout le monde. Vous en parlez tout à l'heure, vous avez parlé de la communauté tout à l'heure, ça touche tout le monde. C'est de la politique que vous faites, mine de rien. Et justement, vous informez les gens pour que les gens puissent s'intéresser à la politique. Le problème aujourd'hui, c'est pour ça que je parle des influenceurs, c'est qu'ils n'informent pas la jeunesse. Aujourd'hui, à part quelques-uns qui sortent du lot, excusez-moi, mais je les trouve vraiment ridicules. Ils désinforment.
Là, vous tapez sur les influenceurs.
Je tape sur les influenceurs et je vais même vous dire que je vais taper sur quelqu'un d'autre, sur un autre groupe aussi. Je vais taper également sur la presse People. Voilà,
ouais.
Parce que je vais vous dire, par exemple,
on va pas se faire que des amis ce soir, c'est bien.
Je suis désolé. Mais
non, nous, on est là pour
voilà,
évidemment.
La une de Monsieur Zemmour, je ne l'ai pas digérée. Ne l'ai pas digérée. Parce que je vais vous dire, c'est inadmissible, inacceptable qu'en cette période d'élection présidentielle, justement, on a une affichant la vie privée d'un candidat. Ce n'est pas le moment, c'est le pire moment pour faire ça. Là aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est expliquer, c'est avoir un vrai débat. Parce qu'on sait que la presse People est lue par tout le monde. Mais il y a une grande partie de jeunesse qui l'a dit, et une grande partie de jeunesse justement qui a eu, on va dire, qui a discuté sur les réseaux sociaux à propos de ça. Il y a eu un énorme buzz, mais je n'ai pas vu une seule idée de M. Zemmour dans les discussions des jeunes. Je n'ai vu à cette période-là que ça. Avec sa copine. Je trouve ça vraiment ridicule. On éloigne la jeunesse aujourd'hui. La presse a un devoir. Le journaliste a un devoir, c'est de rapprocher le français, qu'il soit jeune ou vieux.
Ah, mais est-ce que ce devoir, il est rempli justement? Parce que c'est vrai, vous dites que aujourd'hui, vous nous confirmez que les jeunes n'y croient plus du tout à la politique. Même si Emmanuel Macron, parfois, a tenté des choses auprès de notre jeunesse, est-ce que ça prend forme, par exemple? Je vous pose la question tout simplement.
Monsieur Macron a essayé, bien sûr, comme tous les politiciens aujourd'hui, on les voit tous sur TikTok, par exemple. Monsieur Mélenchon est très actif sur TikTok, Marine Le Pen, ça fait pas très longtemps, mais elle l'est maintenant. Monsieur Philippot l'est également aussi, plus sur YouTube, mais également sur TikTok.
Oui.
On voit aujourd'hui que les politiciens se sont dit, voilà, on va essayer de parler plus à la jeunesse. C'est sûr, mais après, une question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils le font justement d'une bonne manière?
C'est-à-dire,
est-ce que quelquefois les dramas, entre guillemets...
C'est quoi la bonne manière?
Bah, je pense que la bonne manière, c'est de prendre un fait, c'est-à-dire, par exemple, moi, si j'ai envie de vous parler d'écologie, eh ben, voilà ce qui se passe en matière d'écologie, voilà ce qu'on devrait faire, tout simplement.
Oui.
Mais aujourd'hui, on a des tournures, entre guillemets, avec des vidéos, avec des dramas, avec des embrouilles, entre guillemets, entre des politiciens, qui, excusez-moi, n'ont pas lieu d'être. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans la crise sanitaire, on est encore dans l'urgence sanitaire. Il y a des milliers de personnes, par exemple, là, il y a le froid qui arrive, il y a des milliers de personnes qui sont dehors en train de crever de faim. Je pense que, aujourd'hui, les dramas...
Vous pensez qu'ils savent pas faire, ils ont pas les codes, ils savent pas communiquer aux jeunes, les politiciens?
Je pense qu'ils ont des codes de communication, mais ça s'apparente plus à des codes de communication que devrait avoir une personnalité publique et non pas une personnalité politique.
Ouais.
Voilà. Ouais. Après, il y en a beaucoup, par exemple, il y en a un, c'est le ministre des Transports, M. Ouais. Débarry. Moi, je trouve que lui, justement, arrive à avoir ses codes, entre guillemets, de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il prend, entre guillemets, des buzz qu'il y a eu sur TikTok et il les transforme pour, justement, faire passer des annonces. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va être fait de la part du ministère, il va l'annoncer de manière drôle. Moi, ouais. Je trouve que c'est très intéressant. Ça peut arriver, bien sûr. Je suis pas en train de dire que tous les politiciens font que des choses mal. Parce que surtout qu'en plus, à la fin, dans mon cahier de doléances, finalement, je me serais contredit en une interview. Mais non, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il y en a qui font bien le travail, mais d'autres, malheureusement, ont confondu peut-être.
Alors, ma question, parfois qui fâche aussi, est-ce que notre jeunesse va aller voter? Est-ce que notre jeunesse s'intéresse à cette campagne présidentielle qui démarre et qui va prendre de l'ampleur de plus en plus dans les semaines à venir? Est-ce que notre jeunesse va aller franchir le pas d'aller, effectivement, s'intéresser à ce vote des élections présidentielles? Mehdi Djaziri.
Eh bien, écoutez, ça, on va vraiment le découvrir au mois de mai, cependant. Moi, je pense sincèrement que l'arrivée de M. Zemmour a changé beaucoup de choses.
Ah, oui.
C'est-à-dire que il y en a certains qui ont très peur de M. Zemmour, pour de bonnes ou de mauvaises raisons.
Ouais.
Ça, ce n'est pas à moi de juger.
Ouais.
Mais certains ont peur de M. Zemmour. Et d'autres, au contraire, trouvent que M. Zemmour a ramené quelque chose de nouveau dans le casting politique qu'on avait aujourd'hui. Donc, je pense que voilà, ça peut peut-être faire bouger autre chose. Maintenant, on a aussi des réalités écologiques qui peuvent faire bouger les choses. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce que la jeunesse va vraiment s'intéresser à la politique? Je pourrais pas vous le dire, malheureusement. C'est pour ça que je fais ces projets-là, parce que j'ai envie d'éviter justement
Mehdi,
une catastrophe.
On arrive au terme de cette interview, justement. Mais vous reviendrez, Mehdi Djaziri. Dites-moi, le cahier de doléances, il va finir quelque part, il va finir à l'Élysée, il va finir au gouvernement, il va finir où précisément?
Eh bah, ben écoutez, il va pas finir dans ma chambre, ça c'est sûr, il va finir dans les mains des candidats, de tous les candidats, je l'espère. Là, on a eu quelques réponses, pour être sincère avec vous, on a eu quelques réponses. On en a eu d'autres qui, pour le moment, nous ignorent un peu, pour être sincère. Mais oui, il va finir dans les mains de tous les candidats et à l'Élysée, je l'espère, pour toucher un maximum de politiciens.
Mehdi Djaziri, écoutez, vous reviendrez en parler ici dans Les Informés. Merci infiniment. Vous êtes journaliste et créateur de vidéos sur Instagram. Très intéressant, effectivement. Et on reparlera de ce fameux cahier de doléances de la jeunesse.
Merci
Mehdi Djaziri. À très bientôt. 19h17, 01 53 48 3000. Vous nous appelez. Vous nous dites effectivement qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui dans l'actualité parmi les sujets que je vous ai proposés. Les propos de Zemmour sur Hollande sur le 13 novembre. Marion, Maréchal Le Pen qui dit ne pas comprendre cette polémique. Vous, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal, effectivement, que Zemmour ait considéré que François Hollande, justement, il y va loin. Attention, Éric Zemmour, hein, il n'a pas dit les choses. Il a dit carrément, ça a provoqué une polémique, c'est que là, on est. Il a dit, je vous dis, hein, il l'accuse de ne pas avoir protégé les Français avant les attentats du 13 novembre. Est-ce que vous trouvez le propos grave, scandaleux ou pas du tout? À tout de suite et on retrouve nos influenceurs.
Les Informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les Informés avec Adil Farkan.
Le standard est ouvert, les auditeurs ont la parole.
01 53 48 3000. Les Informés vous donnent la parole.
Sur évidemment les sujets que je vais évoquer tout à l'heure, bien sûr, vous êtes les bienvenus. 01 53 48 3000. Le face-à-face en attendant que le standard, évidemment, que les auditeurs s'emparent de la parole.
Les Informés, le face-à-face.
Un tout nouveau parmi nous, il s'appelle Frédéric Bourdon. Bonjour mon cher Frédéric.
Bonsoir Adil.
Tout va bien?
Très bien.
Très bien, mais écoutez, vous sortez de Réunion, vous avez l'air d'être en forme, c'est bien.
On essaye. Hein.
Les Réunions ne vous assomment pas, c'est bien.
Non,
chez les écolos, on n'assomme pas les gens qui sont en Réunion.
Par contre, on est comme vous, on a froid. Hein.
Oui, ouais. On a froid, moi je peux vous dire que j'ai caillouli. Hein. Face à Frédéric Bourbon, vous êtes élu donc à Vitry-sur-Seine, vous êtes aussi conseiller départemental.
Tout à fait, du Val-de-Marne.
Ouais. Ouais. Voilà, tout se passe bien?
Il y a du travail.
Il y a du travail,
ouais,
effectivement.
De terrain et pas plus.
Face à vous, celui que je ne présente plus, évidemment, Nadir Kaya. Bonjour, président de Banlieue Plus. Comment ça va, mon cher
Salut
Nadir
Adil,
ça va, ça caille, vous aussi?
Surtout en bécane,
ouais. En bécane, ah, aussi. Hein.
Entre la circulation et le froid.
Moi, je suis en bécane, comme vous, pareil. J'ai morflé, c'est le mot. Exactement. Messieurs, tout de suite, allez, Éric Zemmour et la polémique qui a suscité une nouvelle fois une controverse en parlant de François Hollande. Vous savez, souvenez-vous, ce fameux 13 novembre, le Bataclan, cet attentat, et puis les propos de François Hollande qui étaient il y a quelques jours encore, la semaine dernière, hein, au palais de justice, pour justement répondre à certaines questions. Alors, des propos tenus par Éric Zemmour, qui qualifie évidemment, qu'il a laissé passer les choses volontairement, hein, ne pas avoir protégé les Français. Alors ça vous fait réagir, messieurs, qui veut prendre la parole en premier ? Nadir. Alors, Nadir Kaya.
Bon, je vais être un peu cru.
Tout le monde a été choqué, hein.
Je vais être un peu cru, mais pour moi, Zemmour, c'est comme du fast-food. Mm. C'est bon, mais c'est pas bon pour la santé.
Ah, et, c'est pas mal.
en fin de compte, l'individu, quand on regarde bien, il ne vit que de buzz. Comme il n'y a pas de fond, réellement, pas de programme, il n'est pas capable d'avoir un programme ou d'être suffisamment large dans sa politique, dans son intelligence, sa capacité à résoudre différents problèmes qui se posent aujourd'hui dans la société française, eh bien, il vit du buzz. Donc, à mon avis, il doit avoir une équipe qui lui dit, voilà, cette semaine, on va faire ça. On va s'orienter sur ça ou ça. Et malheureusement, c'est triste à dire, mais les Français sont addicts de ce genre de personnages et de buzz.
Qu'ils sont addicts?
Bah oui, globalement, les Français, quand ils votent pour une présidentielle ou une élection assez importante, ils ne votent pas pour un programme, parce que la plupart d'entre eux, moi le premier, on ne lit pas ces programmes. Ils votent pour un slogan, pour une orientation, pour un buzz. Et Zemmour, en fin de compte, il a compris. C'est pas un politique, c'est un polémiste depuis toujours. Donc aujourd'hui.
En tout cas, Marion Maréchal, elle comprend pas la raison de la polémique, elle. Hein. Elle le dit clairement.
Ouais, mais ça, c'est politiquement correct. Elle fait semblant de pas comprendre. Elle sait très bien qu'aujourd'hui, on vit du buzz et les politiques vivent du buzz. Ils sont en incapacité depuis 20 ans maintenant de répondre aux vrais problèmes des Français, ou alors de comprendre les vrais problèmes des Français, parce qu'ils disent comprendre, mais une fois au pouvoir, ils n'agissent plus réellement. Donc lui, il a compris tout ce phénomène-là, comment ça fonctionne en France. Preuve en est, il dit qu'aujourd'hui, il est le seul à avoir une certaine vérité, à dire les choses. J'y crois pas trop, hein, beaucoup de gens font des constats. Il fait les mêmes constats que les personnes qui montrent du doigt, mais il prétend simplement faire différemment. Et les Français, malheureusement, tombent dans le piège parce qu'ils sont dans la facilité. Eux-mêmes ne sont pas capables de proposer ou d'être avec lui, mais ils te disent oui, ok. Quoi, pour les gens qui adhèrent à ses propos, ils adhèrent à cette façon de faire nouvellement.
En tout cas, l'attentat de 2015, là, ça a provoqué une vive.
Non, pour ça, c'est encore autre chose. Non, mais bon, là, mais c'est ce que je disais ça, pleinement. Voilà, c'est quelqu'un qui vit du buzz.
Non, mais on parle de ça.
Il peut pas. Il a profité du retour d'Hollande une semaine avant. Hollande est revenu sur la place politique avec certains de ses propos. Donc, il s'est dit tiens, il est revenu, je vais taper dessus, ça va faire le buzz. Il a tout à fait raison.
Alors, Fedegbo, donc, qu'est-ce que vous pensez justement ? Il dit une décision criminelle, de ne pas avoir pris une décision criminelle en laissant les frontières ouvertes. Et il dit clairement que les choses, voilà, c'est délibéré. Allons-y.
Zemmour, c'est la double couche. Il y a l'aspect superficiel, le polémiste qui monte dans les sondages parce qu'il attire tout le monde, voilà, il fait le buzz. Et puis, il y a ce qui fait très peur pour la République, qui est juste en dessous. Quand il dit, par exemple, que c'est qu'il faut fermer les frontières, que c'est à cause de migrants qu'il y a eu du terrorisme, mais on est où là ? On arrive où ? Et quand Maréchal Le Pen dit qu'il n'y a pas de polémique, qu'il n'y a pas de problème, c'est parce qu'elle partage ces mêmes idées. Et qu'en fait, derrière la petite couche là,
certains le pensent. Certains déjà, souvenez-vous à l'époque, ils pensaient même d'ailleurs. Si on s'adresse, pardonnez-moi, je vais essayer d'être un peu provocateur. Si on s'adresse aux complotistes. Et vous disent la même chose qu'Éric Zemmour.
Et très bien, donc Zemmour est un complotiste.
Ils disent clairement, ça, ils disent que le président de la République de l'époque, François Hollande, et le gouvernement ont laissé faire, volontairement.
Comme on a dit la même chose du 11 septembre, comme on peut dire cela, les complotistes réinventent toute l'histoire. Et Zemmour est un révisionniste, donc c'est pas étonnant en fait.
Zemmour n'est pas un complotiste, mais un révisionniste, vous dites.
Il est négationniste, mais bon, lui peut se permettre de dire certaines choses.
C'est un danger pour la République.
Pourquoi on le laisse alors?
Bah ça, c'est faudrait se demander pourquoi Darmanin, veut fermer l'Instagram de Dalton et pourquoi il c'est ça.
Oui.
Mais non, mais il y a un vrai problème. Alors, OK, il y a la liberté d'expression.
Vous en parlez vous en parlez avec vos collègues des écolos, vous vous dites pourquoi aujourd'hui Éric Zemmour aujourd'hui peut tout dire librement.
On en parle comme tout le monde en parle, c'est-à-dire que il y a un danger d'expression.
C'est pas simplement Zemmour. Hein. Il y a une parole qui s'est normalisée depuis maintenant 10 ans dans les médias, où certains qui ont la parole régulièrement permettent de tenir des propos sur certains Français parce que c'est un effet de mode, parce qu'on peut tout faire. On montre du doigt des gens qui sont soi-disant organisés mais qui sont pas du tout organisés, que ce soit la banlieue, la communauté musulmane. Ce sont des gens bien au contraire qui sont désorganisés et qui acceptent ce qui se passe à contre-cœur, parce qu'on ne leur donne pas la possibilité aussi de s'exprimer ou d'apporter de la contradiction. Donc je remercie Beurre FM de faire partie de ces gens-là qui peuvent apporter un peu de contradiction ou d'apporter simplement une opinion qu'on n'entend pas souvent dans les médias classiques.
Et ne croyez pas qu'on se fait aussi taper dessus.
Oui, mais c'est très bien. Mais
je sais que beaucoup de nos confrères écoutent.
Oui, mais c'est
très
bien. Faites taper dessus parce que c'est très bien parce que autour de la table il y a des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir partout. Donc c'est une parole qui est libre, qui est à l'image de la France, c'est-à-dire diverse. Et aujourd'hui, dans les grands médias, on a habitué les Français à entendre un certain discours sans avoir de réaction ou de condamnation de la part des gens qui amènent ces débats-là, notamment de ces journalistes qui sont dans le buzz aussi et qui laissent dire tout et n'importe quoi
En gros, récupération politique.
Non, mais c'est récupération. C'est de la politique aujourd'hui. C'est de la politique médiocre, mais qui s'est normalisée aujourd'hui.
Ouais.
C'est de la récup politique sur un événement qui nous a tous marqués, qui normalement devrait nous réunir, faire société. C'est-à-dire que qui a été victime de ces attentats? De quelle couleur étaient ceux qui ont été victimes? C'est ça qu'il faut se demander.
On a
tous été victimes.
Non,
français et non français d'ailleurs.
C'est encore une douleur supplémentaire aux familles des victimes parce qu'aujourd'hui, on sous-entend, vous imaginez le degré de violence, on sous-entend que le gouvernement a laissé faire. Mmh. C'est ça qui est violent. Donc pour les gens qui sont encore blessés, parce qu'ils seront blessés éternellement par rapport à cette violence qu'il y a eu, c'est encore un deuxième coup, quoi. C'est de leur dire, voilà, ça a été orchestré par le en plus haut lieu en France.
Il savait qu'il y aurait des terroristes.
Bon, après, je pense que juridiquement, il va avoir affaire à des.
Voilà. Et a pris une décision criminelle de laisser les frontières ouvertes. La phrase, elle est terrible.
Ça veut dire beaucoup sur l'actuel candidat s'il devenait président de la République. C'est-à-dire qu'il va faire quoi? Il va tous nous enfermer dans nos frontières. Il va empêcher quoi? De la porosité des frontières, empêcher que l'on puisse sortir, empêcher de vivre, empêcher quoi? La déclaration universelle des droits de l'homme.
Faire le tri entre les Français, les bons, les moins bons, ceux qui sont douteux, ceux qui sont suspects, ceux qui ne le sont pas réellement.
C'est pour ça qu'il est dangereux
pour
la République.
Les authentiques, les véridiques, et ainsi de suite. Mais bon, malheureusement, il y a un pan de la société française qui adhère à ces propos. Donc c'est ça qui est aussi violent. C'est pas que l'individu, c'est ce qui fait écho.
Et c'est pour ça qu'il faut déconstruire ces propos, déconstruire cette logique qui
monte les uns contre les autres. Moi j'ai le sentiment, messieurs, j'ai le sentiment que cette campagne risque quand même de prendre un virage. Comme nous l'a rappelé un peu il y a quelques années, je me souviens de Jacques Chirac, évidemment, on a beaucoup tapé sur l'immigré, on a tapé sur l'immigration.
Mais Sarkozy a fait de même. Hein.
Sarkozy,
mais Macron, qu'a dit Macron lorsqu'il y a eu à Kaboul, lorsque les talibans ont repris l'Afghanistan, qu'il fallait faire très attention parce qu'on allait avoir une vague migratoire venant et qui allait amener le terrorisme.
Aujourd'hui, la politique française vit sur les peurs des Français, c'est ça qui est violent. Elle vit pas sur un aspect positif de la société par rapport à des remèdes. Sur les maux de la société française, elle vit sur les peurs. Et c'est ça qui est violent aujourd'hui. C'est cette hypocrisie et cette incapacité, en fin de compte, à résoudre les problèmes des Français, mais de simplement jouer sur leur sensibilité, sur leurs peurs. Mais bon, après, comme on le dit aussi sur certains sujets, les Français sont aussi responsables
de ça. Sauf que là, Éric Zemmour, on a le sentiment, en tout cas, je vous pose la question, qu'il est en train quand même de donner le ton de cette campagne présidentielle. Il l'a donné, ça y est, il l'a donné. Non, il faut taper sur l'islam, il faut taper l'immigré, il faut taper sur les migrants, il faut taper sur l'étranger,
Je n'ai pas entendu parler de la COP26, c'est bizarre. Il y a vraiment des sujets où il est totalement absent. Comme la droite a été complètement absente hier dans leur débat sur les sujets dont la jeunesse veut entendre parler. La question de l'écologie, la question des droits, la question des inégalités sociales entre les hommes, les femmes.
Parce que l'écologie ne s'arrête pas simplement au réchauffement climatique.
Mais bien sûr que non.
Absolument.
Et donc là, complètement absent. Donc si on écoute que M. Zemmour, bien sûr, oui, on parlera de choses qui sont complètement hallucinantes, où on mettra les uns contre les autres et on montrera les uns contre les autres. Mais
De toute façon, dans une échéance comme ça, ils n'ont pas le temps et ils ne peuvent pas aborder tous les sujets qui concernent les Français. Donc ils sont obligés de cibler. Et aujourd'hui, ce qu'ils ciblent, c'est les sujets qui fonctionnent depuis 10-20 ans. Donc la peur de l'autre, l'immigration, les banlieues, l'islam, c'est trois sujets qui sont à la fois importants à traiter, mais qui sont complexes, mais qui alimentent aussi les peurs. Donc eux jouent là-dessus. Et en plus, on a un Zemmour qui est très limité dans
sa position.
Ça fonctionne parce que y a des débats du matin au soir sur ça, même le week-end, on parle que de ça. Et ça fait tourner pas mal de chaînes d'infos qui vivent que de ça.
Bon, écoutez, on va continuer d'en parler justement. Et les 19h34, 01 53 48 3000, mais également aussi, on va s'emparer des deux autres sujets. Hein. On reviendra sur Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui lui veut fermer donc le compte Instagram et Facebook des Dalton qui ont beaucoup fait parler d'eux toute la semaine dernière, depuis 15 jours maintenant. On parlera aussi de la COP26, comme vient de le souligner Frédéric Bourdon. Alors, c'est vrai que, affirme, c'est votre patron, Jadot. Oui, il dit quoi?
Yannick est un copain même.
Il dit, l'accord signé est incontestablement un échec.
Il n'est pas le seul à l'avoir dit.
Moi, je vous poserai la question. Ouais. Et si c'était trop tard, les amis? Et si c'était trop tard? À tout de suite, on bouge. Ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h37 avec Nadir Kayar, qui est le président de Banlieue Plus, mais également Frédéric Bourdon, qui représente les écolos. Il est élu sur Vétry, mais conseiller départemental sur le département de Vitry. Bah oui, tout simplement.
Val-de-Marne,
oui, tout simplement.
9-4.
Messieurs, 9-4, exactement. Allez, on va parler, vous savez quoi, de ses propos concernant Gérard Darmanin qui réclame, vous savez, lui, le ministre de l'Intérieur, depuis quelques jours, il demande donc au groupe Facebook, Instagram, Facebook, etc., de clôturer le compte du collectif lyonnais, hein, reçu chez Hanouna notamment, chez notre confrère, qui comptabilise pas mal d'abonnés, quand même, des centaines d'abonnés, et il réclame donc la fermeture clair, hein, de ce collectif de rappeurs lyonnais qui nargue les autorités et qui poste ses vidéos de rodéo urbain. Ça, vous savez, ça, hein.
Non, mais on a suivi cette actualité, mais bon, après, qu'il fasse ça, c'est un peu normal, c'est un petit peu aussi son rôle, hein. Il est shérif de l'État, hein.
Est-ce qu'il faut faire fermer les comptes?
Je suis pas un spécialiste, moi, de la question, surtout sur la partie juridique. S'il souhaite le faire ou s'il engage cette procédure, c'est qu'il a des conseillers qui lui expliquent qu'il peut le faire. Donc après, lui,
On peut durcir.
Oui, mais ça fait partie du panel d'action qu'il peut mener face à ces individus hors la loi.
Ou alors peut-être les Dalton ont été trop loin.
Bah moi j'ai vu des images, c'est inacceptable. C'est pas parce que c'est des gens qui viennent soi-disant de banlieue qu'il faut accepter ça. On a déjà vu dans le passé.
Vous, trop de provocations.
Non mais c'est des délinquants. Il y a déjà eu des actes comme ça dans des quartiers où je me rappelle de la petite de 5 ans à Sevran qui s'est fait écraser.
Nous appeler, hein, 0153,
qui s'est fait écraser par un gars en voiture qui s'amusait à rouler à fond à Sevran. 5 ans la fille. Elle est morte.
C'est terrible.
Il y a eu plein d'histoires comme ça où des enfants ou des personnes ont été renversées. Moi, je cautionne pas ces gens-là. C'est pas parce qu'ils sont issus du quartier qu'il faut.
Non, mais c'est bien de le dire. Vous cautionnez pas du tout.
Mais bien sûr. Bah, c'est inacceptable. Moi, je souhaite pas aux gens de vivre des drames pour comprendre qu'il faut agir face à ce genre de comportement. C'est inacceptable.
Inacceptable.
Bien évidemment.
Donc, vous êtes d'accord avec Gérard Darmanin qu'il faut fermer tous les comptes?
Alors, sur la partie des comptes, comme j'ai dit, moi, s'il doit le faire, s'il peut le faire, bah, très bien. Après, sur le fait qu'il agisse face à ces individus, évidemment, ça fait partie de son rôle.
Bon, les membres des Dalton, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, avec toutes ces provocations, avec les rodéos? Effectivement, on en a parlé, ça fait 15 jours qu'on en parle. Frédéric Bourdon, aujourd'hui. Il y a un vrai problème, il y a un vrai phénomène en France, il y a un fléau, notamment. Comment l'endiguer? Il y a aussi ce phénomène où on nargue les autorités, d'accord? Aujourd'hui, on s'adresse à la police comme on s'adressait, comme l'a rappelé Nadir Kaya, effectivement à n'importe qui. Ça part à la dérive, vous pensez?
Je pense que ça a toujours existé.
Ça nous échappe?
La provoque, ça a toujours existé.
Là. Aujourd'hui, est-ce que ça nous échappe?
Est-ce que ça nous échappe? En fait, il y a le phénomène des réseaux sociaux qui complexifie la démarche. Enfin, mais il y a plusieurs choses. Déjà, ce que tu viens de dire, c'est oui, il faut condamner ce qui se fait, quoi. Quand c'est illégal, quand ça met en cause des vies humaines. Enfin, nous, on l'a vu à Vitry il y a un an et demi. On a dû manifester parce qu'il y a un gamin qui était vraiment très très jeune, qui s'est fait renverser par un scooter, un gars qui faisait une roue et
de rodéo.
Qui est de rodéo. Ouais. Donc, enfin, on a tous ces phénomènes-là dans nos villes. Et d'ailleurs, le collectif Dalton reconnaît qu'il doit arrêter de faire ce genre de pratique-là. Ils se sont même mis en scène, en train de faire des maraudes pour un peu redorer leur image. Donc ils savent très bien qu'ils sont dans une dérive qui n'est pas acceptable. Après, la question que vous nous posez, c'est ce que fait Darmanin. Est-ce qu'il fait le Lucky Luke face au Dalton? On se demande ce qu'il cherche à faire. Lorsqu'il dit « j'ai demandé à Meta de couper les comptes ». Mais moi, en fait, est-ce qu'il a déposé plainte pour que ces comptes soient retirés? Est-ce qu'il fait de même lorsqu'il y a des propos racistes, antisémites qui sont faits? On parlait tout à l'heure de Zemmour. Je pense qu'il y aurait parfois de quoi
voilà,
agir.
C'est ce que j'allais dire. Ce serait bien aussi qu'il intervienne face à des gens comme Zemmour, parce que c'est des gens qui ont la parole tous les jours. Quand il tient des propos qui sont, pour ma part, je qualifierais d'islamophobes, parce que quand il montre du doigt les musulmans en sous-entendant, lui comme d'autres, il y a Ciotti aussi qui dit des choses à peu près dans le même registre depuis quelques années. Voilà, c'est cette banalisation de ce discours aujourd'hui. Mais on aimerait aussi avoir un ministre de l'Intérieur qui soit aussi équilibré dans ses réponses face à ces propos qui se sont banalisés et normalisés en France. Ça, c'est aussi violent que ce type de groupe qui fait des rodéos et qui peut tuer des gens, parce que ces discours-là aussi peuvent tuer des gens dans l'avenir. Voilà, parce que des frustrations, ça crée des frustrations, des crispations.
Sur le même, au même niveau que finalement ceux qui tiennent des propos qui parfois.
Je dis pas que je les mets au même niveau, mais je dis que les discours.
Bien de vous poser la question.
Le discours de Zemmour et de certains peut amener à une violence encore plus importante que ce petit genre de phénomène.
Moi, je crois qu'il faut pas s'amuser à faire la comparaison. Mais bon, je vous pose la question.
Comparaison n'est pas raison, mais moi je la fais parce que j'aimerais avoir un ministre de l'Intérieur qui soit équilibré dans ses actions.
Certainement susciter des réactions. Oui, je
c'est
pense.
Pas grave.
Comme d'habitude d'ailleurs.
Oui, tu serais
vous
bien.
Avez l'habitude d'avoir des réactions. Vous en prenez plein la gueule, mais ça vous dérange pas.
C'est pas grave. On a les épaules larges en
vous
banlieue.
Avez les épaules 0153483000. Frédéric Bourdon, vous adhérez dans ce qui vient d'être dit par Nadir Kaya
sur la comparaison. Je sais pas si on peut comparer de comportement délinquant, ouais. Ou en tout cas qui incite à la délinquance.
Je crois que Zemmour lui a été condamné. Donc lui étant concrètement un délinquant, les autres ne le sont pas encore ou vont peut-être l'être. Mais pour l'instant, le délinquant, c'est Zemmour.
Tout à fait.
Ou le multirécidiviste.
Il y a eu des condamnations aussi du côté du collectif des Dalton.
Il y en a eu aussi. Il y en a, il y a une mise examen et tout, il y a une condamnation. Vous avez raison.
Mais on n'est pas
des membres, effectivement.
On n'est pas sur les mêmes pratiques, on n'est pas sur le
même. Oui, bien sûr, mais voilà.
Et voilà. Et l'incidence n'est pas la même, donc la comparaison est difficile.
Mais on est sur des choses qui sont normales. On va aller un peu plus loin, parce qu'aujourd'hui, vous savez, je ne vais pas évidemment énumérer tous les incidents qu'il y a eu entre police jeune, etc., tous ces rapports aujourd'hui, entre les rodéos sauvages, c'est comme ça qu'on les appelle. Aujourd'hui, selon vous, Vitry-sur-Seine, mais également aussi.
Gennevilliers, 9-2, La Courneuve, 9-3, Bobigny.
Est-ce qu'il y a une. Non, mais pour en finir avec, évidemment, avec cela, comment endiguer ce fléau, d'accord ? Il n'y a pas quelque chose à imaginer, à construire, justement, pour créer un meilleur rapport entre l'autorité et la jeunesse des quartiers populaires ?
Adil, on en a déjà parlé. Les solutions, elles sont assez simples. C'est les individus qui ne sont pas faciles à trouver. Les solutions, assez simples. Une France plus juste, plus forte, avec tout le monde, plus juste avec tout le monde. Aujourd'hui, il y a des inégalités qui persistent. Bon, moi, dans mon registre, si je tiens ces discours, ou ce discours, on m'a déjà reproché, on me dit, tu fais de la victimisation. Donc, quelque part, il ne faut pas continuer à rappeler ce qui se passe. Il faut le mettre de côté. Maintenant, il faut simplement aller sur le terrain de l'extrême droite, en parlant d'immigration, de banlieue, de l'islam. Il n'y a que ça qui intéresse certains, notamment dans les médias. Mais la France, ça ne se résume pas à ça, hein. On peut parler aussi du monde rural aussi. Il y a des violences qui existent, qui ne sont pas mises en avant, mais qui sont tout aussi violentes. Des paysans qui se tuent parce qu'ils vivent avec 700 euros. Ça, c'est de la violence aussi. On peut parler de l'écologie. Là aussi, c'est de la violence de ne pas pouvoir répondre aujourd'hui à l'aspiration des jeunes qui aimeraient vivre dans un monde plus propre, plus sûr. Ça aussi, c'est violent de ne pas donner de réponse au bout de je ne sais pas combien de COP. Donc, à un moment donné, les réponses, elles sont simples, mais il faut de l'engagement et puis il faut de la volonté politique. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement, des gens qui sont au pouvoir depuis des années.
Et puis, il y a le lien à faire entre nos jeunes, nos quartiers et ce qui représente l'autorité. Lorsqu'on avait une police de proximité qui permettait à ce que l'uniforme soit vu non pas comme étant celui qui est dans la répression, mais celui qui accompagne, qui va être présent, qui va faire comprendre quelles sont les bonnes, ce qu'il faut faire. Ça donne une autre aspiration que on va te taper dessus, on va t'attraper, on va détruire le véhicule, on va ceci, on va
ça. C'est le problème de Sarkozy qui a retiré ça. Moi, j'ai connu la police de proximité. On faisait du foot, on faisait de la boxe avec eux. Il y avait un respect de l'autorité parce que on savait à qui on avait affaire. Et puis on avait aussi un autre aspect de ces personnes-là en tant qu'humain. Non, je pense que c'est trop tard. On a laissé passer 30 ans. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un retour à cette police de proximité, mais le problème c'est quand on laisse passer comme ça 30 ans d'inaction concrète par rapport à des vrais problèmes qui sont ciblés et auxquels il faut répondre, il arrive ce qu'il arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que ça craque de partout. Moi, comme je disais, je reviens à 20 ans, je me sentais pas français parce qu'on me renvoyait à mes origines. Et quand je vois qu'aujourd'hui, il y a des enfants de 20 ans, 2021, qui ne se sentent pas français.
20 ans après.
Ça veut dire qu'il y a rien n'a été fait. Et ce qui n'a pas été fait, autant on peut le reprocher, tu le sais très bien, moi je suis très critique vis-à-vis de ceux qui ont des comportements inacceptables en banlieue, je les condamne encore plus fermement que certains.
Oui.
Mais ces jeunes-là, parce que la banlieue, c'est pas que des jeunes aussi, hein, parce qu'on dit souvent la banlieue, il y a des clichés, la banlieue, c'est des jeunes, c'est des arabes, des noirs, des musulmans. La banlieue, c'est pas que ça. La banlieue, c'est la France avec toute sa complexité et toute sa diversité. Mais on se focalise là-dessus. Donc, je disais qu'il fallait revenir à une France juste. On a une déclaration des droits de l'homme, du citoyen qui est extraordinaire, qui est universelle, que beaucoup de pays rêveraient d'avoir dans notre pays. Il faut simplement appliquer tout ça. Donc il faut des gens de valeur, il faut en haut, au niveau de la pyramide, des gens qui soient exemplaires. On a aussi ce problème, hein, parce qu'on peut parler du bas de la pyramide, les individus, les comportements, c'est très bien. Mais nos élites aussi, sont-elles exemplaires ? Elles le sont pas. Donc c'est un tout. C'est un tout qu'il faut régler. Et c'est un tout qu'il faut chercher à régler.
Allez, on y restera plus quelques minutes avant, évidemment, d'aborder ce troisième sujet. Frédéric Bourdon,
oui,
pour clore le second.
Un dernier mot. Le phénomène des Dalton, c'est une remise en question de l'autorité. Donc, on a bien dit, il faut
clairement,
redonner
oui.
Un peu de dorure à l'autorité.
Un peu d'ordre.
Oui, mais c'est pas que ça. C'est redonner, du, redonner du sens. Et au-delà de ça...
Des moyens aussi.
Des moyens. Mais quand je vois, par exemple, quand le Premier ministre vient à Vitry-sur-Seine et qu'il promet un niveau dispositif pour remettre les jeunes en phase d'emploi et qu'en fait, c'est des bouts de ficelle comme d'autres dispositifs par le passé, les jeunes se rendent bien compte qu'on se moque d'eux. Excusez-moi. Mais on se moque de nous. On se moque des jeunes, parce qu'en fait, on leur donne pas d'espoir pour aller vers de l'emploi, qu'ils soient résilients, qu'ils donnent envie d'avancer. Donc c'est pas que redonner une configuration différente à la police de proximité, c'est aussi donner de l'espoir, pas que de l'espoir, mais réussir à mettre les jeunes dans l'action, dans leur quartier, mais aussi dans l'emploi, voilà, en lien avec les associations. Il y a vraiment de l'accompagnement à faire social.
Vous parlez d'espoir. Justement, je voudrais aborder ce troisième sujet. Est-ce qu'il y a encore cette note d'espoir, justement, d'avenir? Est-ce que c'est nos enfants, nos petits-enfants qui, eux, vont morfler? La COP26, Yannick Jadot, justement, je parlais de votre patron, celui qui est à la tête de Europe Écologie Les Verts, lui dit incontestablement, c'est un échec. Jamais on n'a vu une Europe peser aussi peu et réglant ses publiquement au sein de la COP26. Ça, c'est les propos de Yannick Jadot. Moi, je vais être encore évidemment plus virulent dans ma question que j'amène. Est-ce que ce n'est pas trop tard, messieurs? Tiens, Europe Écologie Les Verts.
Alors moi, Frédéric Bourdon. C'est gentil, mais je ne suis pas Europe Écologie Les Verts. Je suis un élu écologiste. D'accord, j'appartiens à une association locale qui s'appelle la Fabrique Citoyenne et Écologiste à Vitry-sur-Seine.
Il y a plusieurs.
C'est une branche différente.
C'est une association locale qui rassemble des gens qui se.
Mais vous, il y a une sensibilité, évidemment,
écologiste.
Voilà,
tout à fait.
Donc on parle quand même du même sujet.
Et donc, on parle du même sujet.
Alors, est-ce trop tard ou pas?
Ça dépend de quoi on parle.
Je vous pose la question. Notre planète est menacée aujourd'hui.
Est-ce qu'il est trop tard pour sauver une bonne partie du vivant qui est en pleine extinction de masse? Bah oui, tous ces animaux, toute cette biodiversité qui a déjà disparu.
Contre le réchauffement climatique, c'est trop tard.
Elle, c'est trop tard. D'accord. On a déjà des millions d'insectes qui disparaissent. Voilà, ça c'est trop tard. Par contre, est-ce qu'il est encore temps d'agir pour éviter d'aller vers ce que la COP26 nous amène à imaginer, c'est-à-dire plus 2,7 degrés d'ici 2100. Oui, il est encore possible de faire des choses, mais là, ça nous pend au nez. C'est-à-dire qu'on est au bout du bout.
Donc, je n'exagère pas quand je vous pose la question.
Non, la situation est dramatique.
Elle est dramatique, d'accord. Vous savez ce qu'il dénonce, Yannick Jadot?
Il
dénonce la complaisance vis-à-vis des lobbies.
Mais bien sûr. Bien sûr. Total vient faire 10 milliards de bénéfices là, sur les trois derniers trimestres. Alors que tout le monde paye.
Alors quelle planète on va laisser aux nouvelles générations qui arrivent?
Elle continue d'aller extraire quand même du pétrole en Arctique, quoi. Enfin,
oui.
On en est où là?
Vous êtes inquiet, vous êtes alarmiste comme Frédéric Bourdon?
Je sais pas, moi je suis comme tous les Français, je suis pas un spécialiste de la question. On nous fait flipper depuis des années sur cette situation. Après, je dirais pas que c'est trop tard, hein. Tu sais, un peu, c'est comme l'être humain, on est voué à mourir, mais c'est pas parce qu'on va mourir qu'il faut pas vivre. Donc je pense que c'est à peu près la même chose, l'écologie, même si on nous dit ça va pas, ça va être de pire en pire, c'est pas une raison pour ne rien faire. Je pense qu'il y a des solutions qui sont très simples à faire, mais bon, après la France, c'est que on n'a pas cette mentalité d'écologiste dans l'âme, c'est-à-dire que on n'a pas cette vision au quotidien, cette capacité à faire des choses assez simples qui nécessitent une approche plus poussée. Là, on est sur un aspect global en France, où des politiciens et des spécialistes s'accordent à dire que ça va mal. Mais tu le disais, il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants. Ça, en tant que simple Français, on arrive à comprendre qu'il y a un jeu qui est quand même extrêmement nocif pour les Français et pour la planète. Mmh. C'est qu'il y a quand même des gens qui sont à la tête de certaines industries qui continuent à polluer normalement, voire plus, et qui eux n'ont pas cette pression.
On a la Chine, on a les États-Unis, on a l'Indonésie.
On
a l'Inde, donc l'Indonésie.
C'est grandes sociétés, mais également ces grands gouvernements qui sont souvent hypocrites dans leur volonté, parce que c'est eux-mêmes qui soutiennent ces grandes compagnies, hein, ou ces compagnies, c'est des liens qu'il y a entre eux. Et là, c'est très compliqué. Moi, je dirais que c'est là aussi, il y a des choses qu'on peut faire localement. C'est toujours pareil. Il faut pas attendre les choses du haut, quoi. C'est vers le bas que ça va changer. Donc, c'est une conscience collective, quoi. Il faut pas attendre tout des politiques. On l'a très bien compris. On peut avoir des COP comme pendant des années comme ça. C'est pas eux qui vont résoudre les problèmes. Il faut
on
que ça soit la masse.
Plus
la
revenir masse. En arrière, messieurs.
Non, mais on n'a pas dit de revenir en arrière. On a dit de continuer à aller vers l'avenir.
Quand on voit, voit que certains préfèrent les pesticides, c'est fini, on ne reviendra plus à l'agroécologie, etc. Enfin,
non, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord.
Moi, je pense au contraire. Il y a un modèle vers lequel on peut aller. Et quand Yannick Jadot parle, il propose aussi un modèle d'avenir. On l'écoute peut-être pas assez. Mais et puis il y en a d'autres parmi les ONG, les associations. Il y a, vous savez, je voudrais dire juste deux choses. Ce matin, on était au conseil départemental face à la préfète. On lui a demandé comment, au niveau du département du Val-de-Marne, il y a des objectifs d'ici 2030 de diminuer de 40% les gaz à effet de serre. Mais comment vous articulez-vous, qui représentez l'État, avec les collectivités pour que, en fait, les responsabilités elles soient prises pour diminuer les gaz à effet de serre d'ici 2030? On n'a pas eu de réponse. On l'attend par écrit. On n'a pas eu de réponse d'un plan. Qui nous permettent d'avancer concrètement. Quand je vois, par exemple, on est juste à côté ici d'un incinérateur, on la voit de là où nous sommes, l'incinérateur d'Ivry. C'est 2 milliards d'argent public qui est dépensé sur 20 ans pour reconstruire un incinérateur, alors que l'avenir...
Ça, c'est pas très écolo, ça.
Mais non, mais l'avenir, c'est de diminuer nos déchets, c'est de recycler, c'est de réutiliser. Et en fait, moi qui suis un militant du zéro déchet, ça fait des années que je suis confronté à des décideurs politiques qui ne voient que par le tout industriel, que par le tout high-tech. Mais non, bon sang, non, c'est pas ça. Et en fait, après, on met au dos au mur les citoyens, les habitants, les usagers.
Et tout ça participe au réchauffement climatique.
Mais bien sûr.
Ce que vous êtes en train de citer.
Mais bien sûr.
D'accord, okay.
Donc, on a les solutions. On peut le faire maintenant. Beaucoup déjà œuvrent, des associations. Il y a des décideurs politiques qui vont dans le bon sens.
Mais on fait quoi?
Je vois
on
par exemple,
c'est ça,
à Lyon,
c'est un travail de fourmi, c'est au quotidien.
Oui,
à Lyon, par exemple,
dit, ça y est,
40 millions
c'est
à Lyon.
Donc on fait quoi?
Adil, 40 millions sont dépensés par exemple à la métropole de Lyon pour replanter des arbres. Ce qui est 40 millions d'euros, c'est pas peanuts, mais ce n'est qu'à l'échelle d'une métropole de Lyon. Donc moi, j'invite tous les décideurs politiques. J'en parle au maire de Vitry, qui n'est pas du même bord que moi, en lui disant, on est une des villes les plus carencées en arbres, par exemple. Mais allons-y, plantons. Faisons comme moi j'avais proposé lors des municipales avec mon équipe, on va planter un arbre pour chaque nouvelle naissance. Ben non, en fait, on
stagne.
C'est un beau symbole parce que c'est la vie, en fait.
C'est la vie.
Et donc, il y a de l'espoir.
Ça symbolise la vie, ouais.
Et tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, moi, je suis prêt à parier que l'on peut. Parce que j'ai des enfants et je pense que eux, moi, je pousse dans ce sens-là, mais je pense que les nouvelles générations, on a entendu tout à l'heure Mehdi qui dit, c'est l'écologie qui doit primer, il y a de l'espoir, Adil. Ce n'est pas fini.
Ah non, mais moi je garde espoir. Attention, moi je maintiens qu'il y a espoir. Oui.
Non, mais je parlais de philosophie. Je pense qu'aussi il faut pas avoir tabou. Je pense qu'il faut savoir aussi dire qu'on peut faire de l'écologie et gagner de l'argent. Ça c'est aussi une autre conception des choses. Mais tant que cette philosophie elle est pas comprise, puis les politiques aujourd'hui ont l'impression que l'écologie en fin de compte c'est un rempart face à la politique en général. Moi je suis pas écologiste dans l'âme, mais je pense qu'on peut voir les choses différemment.
Vous avez raison, c'est vrai, effectivement. Sujet qui reviendra de façon récurrente. Merci à Frédéric Bourdon. À très bientôt, alors.
Merci, Adil.
À très bientôt.
À très bientôt, oui.
Nadir Kaya également. À très bientôt, Nadir. Au plaisir. À la réalisation, c'était Yanis. Vous allez retrouver Bilal. Où est Bilal? Dans les couloirs, je l'appelle Bilal. Bilal Nedman. Alors, Time Sport, que nous propose Time Sport de 20h à 21h? Bonjour, Bilal.
Bonsoir à tous. Eh oui, on va proposer quoi? Le carton plein de France face au Kazakhstan, hein, au Parc des Princes. On va parler aussi des nations africaines dans les éliminatoires de cette Coupe du Monde. Ouais. Et aussi, on va parler de Lewis Hamilton. Et ouais, en route pour un 8e sacre. Et qui devancera un certain Michael Schumacher.
Schumacher, qu'est-ce qu'il vient, Schumacher?
Ah, Schumacher, il est avec sa famille.
Ouais,
une pensée pour lui.
Bon, bah écoutez, une pensée pour lui. Riche programme qui nous attend de 20h à 21h avec Bilal Nedman. Merci, on ne lâche rien. À demain avec autant de plaisir. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.